Guillaume Iras, pour cette deuxième partie de notre Radio Barque, comme je le précisais en tout début d'émission, on va la consacrer, cette deuxième partie, à votre responsabilité de premier vice-président du Grand Narbonne, donc de la communauté d'agglomération. Alors, vous occupiez déjà un poste de vice-président, je pense, précédemment, mais là, vous êtes le premier, ça a quand même une signification. Comment les choses se sont-elles faites? Parce que certains ont des souvenirs pas très bons de heurts continuels dans la mandature précédente. Aujourd'hui, ça semble beaucoup plus serein. Il y a une stratégie qui a été élaborée à un moment.
Bon, stratégie, je sais pas, mais déjà, c'est une adhésion collective de notre territoire, dont on dit qu'il s'appelle le Ginestacois. Donc Didier Mouly, maintenant président de l'agglomération, était candidat, donc élu à la mairie de Narbonne. Et nous avons fait le constat qu'il avait effectivement déjà une majorité à l'agglomération. Et donc nous avons une vision, et nous avions affirmé une vision de travail collaboratif dans l'intérêt général derrière un projet de territoire Grand Narbonne 2030. Donc les choses se sont faites après le deuxième tour des municipales de façon cohérente avec une vision à la fois de représentation de nos villages et du Ginestacois et puis d'intégration responsable de la vie de l'agglomération pour porter notre territoire, voilà, et ça, ça nous rassemble. Cette volonté, cette énergie qu'on a envie d'y mettre pour faire les choses en cohérence, pour aller toujours plus loin, voilà, je pense que notre territoire le mérite.
Alors vous avez dit le mot, le Ginestacois. On sait qu'il y a un autre canton ou un autre groupe plus au sud, du côté de Port-la-Nouvelle, Sigean, etc., qui avait travaillé à une certaine cohérence et avait prévu d'apporter ses voix dans une certaine direction. D'ailleurs, si je ne me trompe, Monsieur Martin pour le sud, et vous allez déposer des groupes à l'agglomération.
Oui, effectivement.
Représentant cette territorialité, grosso modo.
Oui, cette territorialité, cette photographie de villages de même taille. Nous serons sur la thématique ruralité Corbière et Minervois, les communes rurales en Corbière et Minervois. Avec cette volonté, encore une fois, toujours de travailler groupé et d'avancer dans l'agglomération, tout en gardant chacun ses spécificités et en faisant porter une voix. Dans les débats, on arrive à la bonne mesure quand on débat sereinement et qu'on arrive à écouter les autres, à les entendre, trouver les bonnes décisions pour aller pour regarder vers 2030.
Oui, effectivement. D'ailleurs, les toutes premières séances, pour ceux qui ont le privilège d'y assister, sont un petit peu plus calmes que certaines précédentes. Bon, c'est bon signe. Alors, Guillaume Iras, vous aviez déjà précédemment la responsabilité des ressources humaines au niveau de l'agglomération et de l'environnement. Vous avez conservé ça?
Oui, j'ai souhaité conserver ça. Parce que il y a une continuité dans le travail et encore énormément de choses à faire. Alors sur les ressources humaines, c'est un quotidien, c'est une gestion.
C'est combien de personnes qui travaillent?
Alors 530 personnes avec les satellites, hein, et puis une notion aussi de temporalité, de saisonnalité. Parce que voilà, nous avons une saison touristique qui nous amène
à embaucher
une centaine de saisonniers pour la collecte des ordures ménagères. Voilà. Mmh. Et les deux délégations sont liées parce que la gestion des déchets appelle aussi une gestion RH importante.
Oui, beaucoup de personnel. Oui. Et le plus gros budget, je crois,
Le plus gros budget en fonctionnement.
En fonctionnement, en tout cas.
Mais pas en investissement. Oui, investissement, c'est certainement le budget de l'eau et de l'assainissement qui appelle des rénovations de réseaux importantes, des constructions de stations d'épuration.
Voilà. Oui, mais c'est autre chose comme façon de fonctionner. Oui. Et alors justement, l'environnement, alors c'est pas nouveau dans la mesure où précédemment déjà le prédécesseur de M. Mouly, M. Bascou, avait déjà pas mal, fait d'efforts et s'était investi sur la notion d'environnement. Aujourd'hui, Il se passe des choses qui sont très positives sur ce plan-là, à Narbonne et dans la Narbonnaise.
Alors,
avec le groupe Suez,
On est effectivement dans une continuité. Alors effectivement, Suez est le délégataire pour Lambert, et la collecte du verre aussi.
La décharge Lambert.
Voilà, oui. Effectivement. Nicolin est en charge de la collecte des ordures ménagères sur Narbonne et Narbonne Plage, et tout le reste est assuré par les fonctionnaires territoriaux de l'agglomération. Et donc je dois dire, et j'en profite pour les féliciter, avec un travail pas facile et de terrain et assuré même pendant la crise du Covid. On a vu une continuité des services publics extraordinaire à l'agglomération.
Fait et du monde et de la surface.
Et du monde et de la surface. De la 37 surface. Communes et de la surface.
Et alors, il y a quelque chose de spectaculaire, c'est la création sur la commune de Narbonne d'un laboratoire de recherche du groupe Suez.
Et effectivement, la vision de l'agglomération, c'est de dire nos déchets ont de la valeur. Le projet de territoire a été axé sur la transition énergétique et la croissance verte. Et nous produisons énormément de déchets, comme partout en France, mais sur l'agglomération aussi. Et nous avons la chance d'avoir des équipements qui permettent de traiter ces déchets. Et donc le traitement, nous l'avons délégué à Suez, avec une demande, une commande politique de toujours plus détourner de l'enfouissement et de créer de la valeur avec ces déchets. Et Suez, je pense sur la ligne qui avait été fixée sur les investissements de la collectivité, a décidé d'implanter à Narbonne son laboratoire de recherche, de méthanisation, sur la méthanisation. Donc ça a commencé déjà, 7 chercheurs travaillent déjà sont présents. Les équipes vont doubler. Alors, on n'a malheureusement pas pu inaugurer l'équipement
on comprend pourquoi.
Parce qu'avec le Covid,
Mais le laboratoire existe et les chercheurs, on les a trouvés, si je puis dire.
Exactement. Et puis, on va développer. Et on a développé des outils industriels comme le CSR, le combustible solide renouvelable, qui va être brûlé dans les chaufferies de Port-la-Nouvelle pour créer du ciment en circuit court.
On recycle le mobilier aussi depuis quelques temps.
On recycle le mobilier qui va être transformé en CSR, effectivement. Un circuit court, donc nos déchets ont de la valeur. Voilà.
Oui, et Narbonne est un peu en pointe de ce point de vue-là, finalement.
Narbonne est en pointe. Sur le tri sélectif, nous avons simplifié le geste de tri et nous sommes au-dessus des moyennes nationales maintenant et régionales sur ce geste de tri.
Sur le tri, oui.
Voilà, mais c'est jamais assez, il faut toujours plus continuer. C'est pour ça qu'on va mettre en place, on va développer de plus en plus les composteurs collectifs. Voilà, l'idée de détourner de l'enfouissement et de créer une seconde vie à la matière.
Donc il reste beaucoup à faire et les gens de l'agglomération vont assister à des changements encore prochainement.
Exactement, et ils sont acteurs.
Et ils sont acteurs
de ce changement parce que chaque fois que nous achetons quelque chose au supermarché, posons-nous la question, est-ce qu'il y a un suremballage? Comment est-ce que déjà je vais consommer tout ça? Est-ce que j'en ai besoin?
Comment je vais pouvoir... Donc il y a une conscience écologiste à acquérir,
il y a forcément
ou à développer.
Cette conscience. L'agglomération, les collectivités ont la responsabilité de faciliter le geste de tri, d'aider les habitants à recycler, mais nous avons tous une responsabilité individuelle devant le déchet que nous créons.
Alors ça, on l'a vu, donc Guillaume Heras, un des gros morceaux, mais bien entendu, l'agglomération ayant une foule de compétences aujourd'hui, il y en a d'autres. Alors un petit mot sur une question qui a été posée publiquement en conseil, sur l'espace de liberté, qui a une gestion un petit peu à part, dans le Grand Narbonne. Vous aviez vous-même, si je ne m'abuse, vous aviez parlé d'un audit qui allait être lancé pour en savoir un petit peu plus.
Ah oui, c'est toujours l'actualité. Cet équipement est sur le territoire depuis 30 ans, il me semble.
89.
Donc on a fêté les 30 ans l'année dernière. Et donc il est nécessaire de faire un point d'étape aujourd'hui. Alors, sur les finances, bien sûr que nous savons parfaitement le fonctionnement. Mais il faut aussi positionner les finances aujourd'hui, positionner l'équipement dans le contexte. Il y a des voisins, il y a d'autres activités. Alors, au sein de cet équipement, il y a la patinoire, il y a le bowling, il y a bien sûr la natation et plusieurs...
Donc des points très importants de la vie narbonnaise, finalement.
Mais bien sûr, et du Grand Narbonne. Et donc, avec des subventions importantes, c'est un choix d'équilibre pour permettre un accès à tous les Grands Narbonnais à cet équipement, et à moindre coût, un coût de marché. Et donc, cet équipement va avancer dans le temps, il a de la concurrence. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cet équipement? Est-ce qu'il faut réinvestir dessus? Est-ce qu'il faut prendre d'autres directions? Donc effectivement, on parle d'un positionnement dans le temps, dans son contexte, avec ses voisins, et c'est nécessaire. Et donc, on va...
C'est ces questions-là que devra poser.
Mais complètement. Et donc, alors moi, je dirais effectivement, une étude et un positionnement dans le contexte et un positionnement stratégique.
Voilà. Sens de cet audit qui va durer sur un certain nombre de mois.
Mais bien sûr, et avec un apport extérieur de compétences sur ces équipements qui sont stratégiques et qui n'existent pas dans...
Ailleurs,
enfin, non, je veux dire, dans chaque coin de rue, quoi.
Oui,
voilà,
oui,
c'est un
ailleurs,
équipement rayonnant.
Dans l'agglomération,
oui,
avec
voilà,
une
voilà.
telle force. Mm-hmm. Et, autre équipement très important, c'est le théâtre. Donc, alors, le théâtre, on sait que c'est une scène nationale, ce qui rend la gestion pas toujours facile, depuis d'ailleurs un certain nombre d'années. C'est tout à fait subventionné quand même par le Grand Narbonne. Mais c'est un équipement qui a une certaine indépendance, pas toujours bien vue d'ailleurs par les élus.
Oh non, je crois pas. Justement, l'intérêt d'une scène nationale, c'est qu'il y ait une indépendance de la culture et que la programmation culturelle reste, comment dire, la décision de ses responsables et culturels. Aujourd'hui, la scène nationale, nous la considérons comme une chance pour notre territoire. Voilà, c'est le rayonnement culturel.
Mais est-ce que son fonctionnement est parfois critiqué?
Nous sommes en début de mandat, donc nous avons la réflexion de chacun des équipements communautaires. Mmh. Et ce que nous exprimons, c'est qu'une scène nationale doit rester sur notre territoire. Que nos participations financières au niveau de l'agglomération ne peuvent pas être remises en question, surtout dans le phénomène actuel de Covid et de difficultés.
Mais c'est un monde qui s'ouvre.
Mais nous exprimons le fait qu'une scène nationale doit irriguer le territoire, l'intégralité des villages de l'agglomération, qu'elle doit travailler avec les autres équipements communautaires.
Parce qu'il y en a beaucoup d'autres.
On a un musée de la Romanité qui va être un diamant culturel
prestigieux.
On a un conservatoire, on a une médiathèque, et voilà, et il y a d'autres équipements culturels sur le territoire, et la scène nationale doit travailler avec eux. Voilà.
C'est le problème d'irrigation, peut-être, puisque c'est un mot que vous avez employé, Guillaume Heras, un mot d'irrigation ou de manque d'irrigation. C'est comme ça, peut-être, qu'on pourra le voir. En tout cas, on conclut comme ça cette deuxième partie, Guillaume Heras, et on se retrouve dans une troisième partie un petit peu plus personnelle, une interview côté face.